Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, c'est-à-dire à l'empereur ? Nous l'avons entendu, les pharisiens essayent de piéger Jésus. S'il répond oui, il se présente alors comme un collaborateur de l'occupant romain. S'il répond non, il se met alors ouvertement hors la loi et donc sous la menace d'une sanction grave de la part du pouvoir romain, sanction pour rébellion et résistance contre l'Empire. Jésus va répondre d'une manière inattendue et déconcertante : « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est un peu le même type de réponse que Jésus avait faite à Pilate, qui lui demandait s'il était roi. « Ma royauté, lui a répondu Jésus, n'est pas de ce monde. » Jésus invite les pharisiens et avec eux ses disciples à ne pas confondre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. En fait, c'est un peu comme s'il répondait aux pharisiens « Je ne suis ni un collabo, ni un révolutionnaire de l'ordre établi. Je suis venu pour autre chose. Je suis venu pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous le savons, dans l'histoire, l'Église a souvent été tentée de mélanger pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Pendant longtemps, la confusion a été grande. Je crois qu'on peut dire vraiment qu'aujourd'hui, en France, au moins du côté de l'Église, car ça n'est pas toujours le cas du côté de l'État, les choses sont bien claires. L'Église a bien compris l'esprit de la loi de séparation de 1905 et la conception de la laïcité qui, à l'époque, l'a inspirée. Aujourd'hui, c'est vrai que le contexte est différent, notamment en raison de la présence bien plus forte dans notre pays de l'islam. Du coup, l'État souhaite de plus en plus se mêler des affaires religieuses et peut-être qu'il y a certains excès, que l'État ne reste pas toujours fidèle à la conception de la laïcité définie en 1905. Cette séparation du temporel et du spirituel a été le point d'achoppement, il y en a qui l'ont connu en direct ici, le point d'achoppement des partisans de Mgr Lefebvre lors du Concile Vatican II. Ceux qui, à l'époque, ont refusé la séparation des pouvoirs spirituels et temporels ont préféré se couper de la communion avec l'évêque de Rome, provoquant ainsi un schisme dans l'Église. Dès lors que l'on rend à Dieu ce qui est à César, on accepte que le spirituel régisse le temporel. Ça a été pendant longtemps le cas en Europe, particulièrement pendant la chrétienté médiévale. C'est le cas aujourd'hui dans ces religions où loi religieuse et loi civile ne font qu'un, avec tous les excès que cela peut comporter chez ceux qui font primer la loi religieuse sur la loi civile du pays dans lequel ils vivent. L'actualité de vendredi nous l'a rappelé cruellement. Quelqu'un a fait prévaloir la loi religieuse sur la loi civile de notre pays. En sens inverse, dès lors que l'on rend à César ce qui est à Dieu, on assiste au hold-up du temporel sur le spirituel. Le temporel veut se soumettre complètement le spirituel. Je crois qu'on peut le dire, depuis quelques années, c'est la grande tentation de nos dirigeants dans notre pays. L'État doit avoir son mot à dire dans la manière dont le culte est organisé, dont l'enseignement religieux est dispensé, dont l'enseignement tout court est dispensé dans les établissements catholiques aussi, pour ceux qui y travaillent, vous le savez. On a instauré, par exemple, le baptême républicain, avec toute une spiritualité qui va avec. et on voudrait nous faire tous adhérer à un nouveau système religieux imprégné de laïcisme pour relier les hommes entre eux sans les relier à quelque transcendance que ce soit. Pas plus tard que ce matin, en écoutant la radio, il y avait une secrétaire d'État qui était interviewée par rapport à l'assassinat de ce professeur de collège vendredi. Elle a eu cette phrase, cette parole: l'école est le seul lieu qui éveille les consciences. Je crois que c'est vraiment le témoignage d'un État qui ne fait confiance à personne d'autre pour éveiller la conscience de ses concitoyens. Le temporel s'érige ainsi en pouvoir spirituel. Il prétend tout dire sur ce que l'homme doit croire et penser. Il est vraiment du côté des Lumières, quand le spirituel ou le religieux, pour lui, est toujours du côté de l'obscurantisme. Alors nous le vivons tous ici, depuis hier soir, vous êtes tous rentrés chez vous à 20h59 et 59 secondes. Dans notre situation sanitaire d'aujourd'hui, le pouvoir civil impose de nouvelles lois qui impactent fortement notre vie sociale. Et je crois qu'il est légitime d'interroger notre propre rapport à la loi civile. Je crois que ça nous fait nous interroger par rapport à cela. Si on est à peu près un citoyen, surtout français, normalement constitué, on réagit souvent comme ça quand la loi ne me convient pas, ou quand nous la trouvons injuste ou excessive ou trop intrusive, ou restreignant trop notre liberté, nous pouvons être tentés de la transgresser sans scrupule, surtout dans le Sud. À quoi bon payer tous ces impôts? À quoi bon ne rouler qu'à 80 km/h sur une route qui est large, toute droite, où il n'y a personne? Pourquoi porter le masque et respecter le couvre-feu alors que si je me promène après 21h sans rencontrer personne, je ne risque rien ni pour moi ni pour les autres? Pourquoi fermer mon restaurant alors que je prends toutes les précautions nécessaires? Des réflexes bien humains. Pourtant, la tradition de l'Église est unanime. Le chrétien doit toujours, toujours, toujours obéir à la loi civile. Toute la tradition chrétienne témoigne de l'obéissance des disciples du Christ aux autorités civiles en place. Vous pourrez aujourd'hui ou cette semaine relire le début du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, vous verrez. Peut-être que vous connaissez aussi cette lettre écrite à un certain Diognète au IIe siècle, il y a fort longtemps, mais une parole tout à fait d'actualité pour nous. Je cite: « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. » L'Évangile et la tradition chrétienne sont très claires. Les chrétiens ont le devoir d'obéir à la loi civile, et c'est ainsi qu'ils rendront à César ce qui est à César. Mais je crois qu'il y a un mais. J'espère que les renseignements généraux ne sont pas dans la cathédrale ce matin. Je crois qu'il nous faut aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est peut-être là la limite de notre obéissance à la loi civile. Il est en effet des lois que nous ne pouvons pas accepter, car elles touchent à la vie de l'homme et sont contraires à ce que nous croyons du mystère de la vie tel que Dieu nous l'a révélé. Par exemple, on ne peut accepter une loi qui nous autorise à tuer. D'ailleurs, jusqu'à présent, on a encore de la chance, la loi civile le reconnaît elle-même, puisqu'elle inclut des clauses d'objection de conscience. On peut penser à une certaine époque au service militaire et à ceux qui ne voulaient pas prendre le risque de tuer quelqu'un au combat. Et aujourd'hui, je pense à tous ces médecins qui ont la possibilité de ne pas appliquer une loi qui les autorise à donner la mort plutôt que de rendre la vie et la santé, que ce soit dans les tout premiers moments de la vie humaine comme dans sa toute fin. Les premiers chrétiens, vous le savez, devaient se soumettre sous peine de mort à la loi romaine qui obligeait tout citoyen romain à rendre un culte à l'empereur. Au péril de leur vie, beaucoup ont préféré désobéir pour rester fidèles à leur Seigneur et ne pas rendre un culte au faux Dieu. Alors Seigneur, aide-nous à remplir de notre mieux notre devoir de citoyen. Fais de chacun d'entre nous des citoyens modèles. Fais de nous de véritables acteurs et de solides partenaires dans notre société, respectueux de nos institutions et de nos lois. Aide-nous aussi à être des gilets blancs, c'est-à-dire des sentinelles qui rappellent aux autorités civiles les limites de leur pouvoir. J'encourage, dit saint Paul à Timothée, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur. Frères et sœurs, soyons vraiment l'âme de ce monde. Soyons vraiment, comme Jésus nous l'a demandé de le faire, lumière du monde et sel de la terre. Amen.